Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, la langue française, évidemment, ici à l'Académie, on connaît, ça nous connaît, mais vous-même, vous qui nous écoutez, vous connaissez bien votre langue, vous la maîtrisez, vous êtes possédé par elle, elle vous possède. Mais, est-ce qu'on connaît vraiment la façon dont la langue française est traitée à la fois par la loi, est traitée par le monde de l'économie, par le monde de la publicité? On se plaint, et il existe des associations pour cela, des atteintes qui sont portées à la langue française. Il existe une façon de se défendre. Il existe même des procédures, il existe des lois. Une loi en France qui s'appelle la loi Toubon, et cette loi Toubon, justement, on va essayer d'en faire le bilan. Elle existe depuis 1994. Le bilan avec vous, maître Jean-Claude Amboise. Bonjour maître.
Bonjour monsieur.
Vous êtes chargé, vous êtes avocat bien sûr, hein, chargé de l'application de la loi du 4 août 1994, donc relative à la langue française. Vous êtes l'avocat des associations agréées, il y en a trois. Avenir de la langue française, Défense de la langue française et la FAL, l'Association francophone d'amitié et de liaison. Trois associations qui peuvent en quelque sorte se porter partie civile quand il y a un litige, quand elles se plaignent d'une mauvaise utilisation du français au regard de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. Je vous présente en deux mots parce que vous êtes quand même le connaisseur du sujet. L'utilisation de la langue française en France face aux langues étrangères, les garanties juridiques, c'est votre thèse de doctorat. On peut se la procurer auprès de l'Atelier national de reproduction des thèses, dont on peut donner d'ailleurs tout de suite les références. C'est 9 rue Angelier avec 2 L, 59 046 Lille Cedex. Si vous voulez vous procurer ce travail de référence sur l'utilisation de la langue française en France face aux langues étrangères, les garanties juridiques. Donc vous connaissez particulièrement bien le sujet, maître Amboise. Le 4 août en plus n'est pas une date anodine, hein.
Oui, oui, puisque je dois avouer que c'est la date de ma naissance où je suis né un 4 août. Donc, coïncidence fait que, effectivement, donc la date de la loi correspond à la date donc, de
ma
naissance.
C'est presque un signe du destin.
Beaucoup de personnes le disent, effectivement, que ce n'est pas un hasard si, effectivement, je suis chargé de l'application de cette loi du 4 août.
On connaît évidemment aussi, bien sûr, la fameuse nuit du 4 août.
Oui, bien sûr. Bon. Tout à fait.
L'abolition des privilèges.
L'abolition des privilèges.
Est-ce que, justement, on a voulu, par cette loi, instituer un privilège? En quelque sorte.
Je pense, déjà cette loi, il faut la prendre comme elle est, c'est-à-dire que c'est un texte qui vise à garantir aux citoyens et aux consommateurs la possibilité d'utiliser le français et à le faire utiliser dans les actes essentiels de la vie courante et professionnelle. Donc ce n'est pas une loi linguistique au sens par exemple de la charte québécoise, bien connue sous le nom de loi 101, qui constitue vraiment une loi linguistique très large qui vise des domaines très étendus et très précis. Donc on est en présence d'une loi qui permet simplement aux citoyens et aux consommateurs, dans les actes essentiels de la vie courante et professionnelle, de pouvoir recevoir une information
en français.
Et de pouvoir recevoir une information en français et de pouvoir communiquer également en français.
Comparé à la loi canadienne, vous diriez que c'est une petite loi au regard d'une grande loi?
Alors, bon, il est vrai aussi que le Québec est dans une situation particulière, puisque le Québec est vraiment entouré de langue anglaise, par le Canada anglais, par les États-Unis, et que la situation du Québec est particulière. Donc peut-être que les Québécois ont ressenti plus le besoin des Français d'adopter véritablement une grande loi linguistique. Mais il est vrai que la loi du 4 août 1994 a son intérêt, puisque on s'aperçoit que de nombreuses pratiques linguistiques vont à l'encontre de la langue française, et il était tout à fait judicieux de prévoir l'adoption de cette loi, qui d'ailleurs se substitue à la loi précédente qui était la loi du 31 décembre 1975,
dite Balloriol.
Loi Balloriol.
Alors, maître Amboise, pour bien comprendre notre propos, tout d'abord nous allons nous attacher à cette loi en tant que telle, voir à quel objet elle correspond, puis les incidences du droit communautaire, parce que c'est capital pour bien comprendre l'évolution de la situation, et l'application de la loi et soyons bien clairs, il s'agit ici d'étudier des cas pratiques de la vie courante. Il ne s'agit pas d'une étude théorique strictement juridique.
Hein.
Donc vous allez illustrer tout cela par des cas pratiques. Alors d'abord sur cette loi en tant que telle, je prends l'article 1er, langue de la République en vertu de la Constitution. La langue française est un élément fondamental de la personnalité, du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. La présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. C'est aussi ce qu'on peut lire dans cette loi. Quel est le point le plus important de cette loi?
Oui, alors déjà je voulais revenir...
Parce que là c'est une entrée en matière.
Voilà, donc alors c'est une entrée en matière et justement beaucoup de confusions sont faites sur cette entrée en matière. C'est-à-dire que beaucoup de personnes considèrent que cette entrée en matière constitue en fait déjà un texte de droit normatif. Or non, ce sont des principes généraux, donc qui sont faits pour annoncer la loi, mais en tant que tel, ils n'ont pas de portée juridique. C'est comme dans la Constitution, la langue de la République est le français, donc c'est un principe, certes important, c'est un principe constitutionnel, mais qui en tant que tel n'a pas de portée juridique. La portée juridique se mesure à la précision des textes. Or, ici, donc, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics, comme vous l'avez dit. Donc, ce sont des principes.
C'est l'article 1er.
Voilà. Donc, pour annoncer la loi, mais en tant que tel, il faut avancer dans la lecture de la loi pour bien percevoir la portée de ces indications.
Alors, justement, l'œil du juriste, où s'arrête-t-il?
Alors,
quels sont les mots qui comptent?
Alors donc les mots.
Parce qu'il y en a des articles hein, quand
oui,
même.
Alors hein. les mots qui comptent. Alors
on a toute la loi sous les yeux, voilà, 24 donc, articles.
Alors si vous voulez bien, je vais rapidement analyser ces différents articles. Alors le premier article normatif, c'est donc l'article 2. L'article 2 qui concerne l'emploi de la langue française dans les relations commerciales. Et d'ailleurs la circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de cette loi donc nous aide à comprendre donc ce qu'il faut entendre par les relations commerciales, c'est-à-dire par la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi, etc. des biens, des produits et des services. Donc cette circulaire nous indique que cet article concerne toute la commercialisation des biens, produits et des services, des biens, des produits et des services, c'est-à-dire en fait tous les documents destinés à informer l'utilisateur ou le consommateur donc concernant les biens qu'il est susceptible d'acheter.
Donc c'est toute la vie courante, tous les biens manufacturés, les modes d'emploi, de l'aspirateur à la chenille fille,
donc comme l'étiquetage, les prospectus, les catalogues, les brochures, les bons de commande, donc vous l'avez cité, les modes d'emploi, les menus aussi et les cartes des vins, les reçus et tickets de caisse, les programmes de spectacle, les types de transport, donc tout ce qui concerne la vie courante, du consommateur courant. Donc cet article est évidemment fondamental puisqu'il concerne directement l'information du consommateur. Et il y a une précision, la circulaire donne une précision sur les inscriptions gravées ou moulées que l'on trouve quelquefois sur les biens, notamment les chaînes de haute fidélité, où souvent on a des inscriptions en anglais, donc qui sont moulées et gravées. Et en fait, donc on peut le regretter, mais ces inscriptions peuvent rester en l'état, à condition évidemment d'être reprises dans le mode d'emploi, parce que, et j'aurai l'occasion d'y revenir, le droit communautaire en fait s'oppose à la traduction directement sur le produit pour des questions relatives à la libre circulation des marchandises.
Autrement dit, si on, off sont traduits dans le mode d'emploi, c'est bon, ça passe.
Oui, et encore, on, off est considéré comme un terme ou des termes, on et off, largement compris par le consommateur, et là aussi, le droit communautaire en fait ne permet pas l'emploi obligatoire de la langue française dans ce même, et je reviendrai plus longuement
là,
au droit communautaire.
Mais là, si je vous écoute, Maître Amboise, avec l'article 2, on a tout dit?
Alors, on a tout dit, on en a dit beaucoup, mais évidemment, il reste d'autres articles. L'article 3, qui concerne notamment les annonces sur la voie publique, ou donc les messages qui sont destinés à l'information du public.
Alors, exemple, dans une gare?
Dans une gare, tout à fait. Alors, contrairement à l'article précédent, et je crois que c'est important de le souligner, il s'agit des informations de nature non commerciale. tout à l'heure, dans le cadre de l'article 2, on était vraiment dans les relations commerciales, les modes d'emploi, etc. Donc ici, il s'agit des informations de nature non commerciale. Donc je vais en donner quelques exemples. Par exemple, comme vous l'avez dit, les gares, également les inscriptions dans les aéroports, dans les stations, les abribus, les salles de spectacle, les cafés, les restaurants, les musées, les galeries marchandes, mais qui constituent à chaque fois des informations de nature non commerciale, comme par exemple entrée-sortie dans une galerie commerciale ou interdit de fumer, qui va bientôt d'ailleurs venir dans les restaurants.
Oui.
Donc toutes ces mentions. Donc bien distingué, cet article annonce de nature non commerciale et l'article 2 qui concerne les relations commerciales.
Donc une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qui reste ?
Alors il reste un domaine également très important, qui est le domaine des réunions publiques.
Ah oui, bien
c'est
sûr.
C'est-à-dire tout ce qui est colloques, congrès, et les auditeurs savent très bien que
il y a eu pas mal d'entorses, hein,
que la langue française est assez
très mal menée.
Peu, oui, j'allais dire peu présente et de moins en moins surtout présente dans ces manifestations, notamment dans les colloques scientifiques où généralement elle est même absente. Donc cette disposition, cet article, c'est l'article 6, donc qui concerne la possibilité pour les participants de s'exprimer en français. Alors, donc, que cela signifie-t-il ? Parce que, pris isolément, chacun, les patients peuvent s'exprimer en français, ça pourrait être uniquement théorique, donc sans définition. Mais la circulaire du 19 mars 1996 donc, nous donne donc une indication. Donc, c'est l'interdiction dans ces réunions publiques que les programmes soient en fait exclusivement dans une langue étrangère.
Donc sur le territoire national, alors, on est bien d'accord.
Sur le territoire national, et cet article d'ailleurs poursuit, puisqu'il prévoit que les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion publique pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent bien évidemment comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Donc la même chose pour les documents préparatoires ou les documents de travail, ainsi que la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux. Donc ces textes doivent être suivis, donc doivent être en français, et également les textes ou les interventions présentées en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français. Donc on voit que des dispositions donc existent pour essayer de faire face justement à ce qu'on peut appeler un envahissement de la langue
anglaise essentiellement. Hein.
Oui, essentiellement.
Maître Amboise, est-ce qu'on a fait le tour là ?
Alors, on a presque fait le tour. On va juste revenir au domaine du droit du travail. Donc, oui, tout de même un domaine que j'estime important.
Quatrième pilier, en quelque
donc,
sorte.
Donc, quatrième pilier, donc c'est, donc par exemple, c'est l'article 8 qui concerne le contrat de travail. Évidemment, le contrat de travail doit être rédigé en français lorsqu'il est constaté par écrit. Bon, quelquefois, des contrats de travail ne sont pas écrits. Donc, mais là, ça concerne évidemment les contrats de travail lorsqu'ils sont rédigés par écrit.
Alors, dans quelle langue sont-ils rédigés, sinon ?
Alors, ils peuvent être rédigés en anglais, par exemple. Et ça arrive que des contrats de travail soient rédigés en anglais. Donc, pour éviter...
Bon, c'est les grosses
donc,
boîtes. Hein.
Ce sont souvent des grandes multinationales qui, effectivement, n'hésitent plus donc à faire rédiger des contrats de travail donc en anglais. Et cet article donc prévoit que lorsque le terme donc anglais ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication en français donc du terme étranger afin que le salarié puisse connaître l'ensemble de ses obligations. Deuxième point, donc le règlement intérieur. Donc le règlement intérieur doit évidemment
de l'entreprise.
Donc être rédigé en français. Donc il peut bien évidemment être toujours, hein, comme l'ensemble de lois, être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Également donc les mêmes dispositions s'appliquent pour les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise
bien
ou
sûr.
D'établissement. Et dernière disposition pour les offres d'emploi. Donc
c'est vrai qu'on y pense
chose.
Pas là. Mais...
Et c'est vrai qu'on y pense peu. Et les offres d'emploi donc doivent être rédigées en français. Et là, on retrouve la même disposition que pour le contrat de travail, c'est-à-dire lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour
d'accord.
ne pas en induire en erreur le salarié. Et puis je vais tout de même terminer par l'enseignement, puisque l'enseignement est tout de même important, puisque cet article, c'est l'article 11, dispose que la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. donc sauf exception justifiée par les nécessités de l'enseignement des langues et des cultures régionales ou étrangères, ou bien évidemment lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou des invités étrangers. Il prévoit aussi une dérogation importante pour les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international. Donc, ces établissements ne sont pas concernés par l'application de la loi.
On a fait le tour, Maître Amboise. On marque une première pause, on se retrouve juste après. Éclairage consacré à l'application de la loi Toubon du 4 août 1994 relative à la langue française avec Maître Jean-Claude Amboise qui est l'avocat des associations agréées chargées de l'application de cette loi. Associations agréées que sont Avenir de la langue française, Défense de la langue française et l'AFAL, l'association francophone d'amitié et de liaison. On a fait un panorama de cette loi du 4 août 1994 avec donc plusieurs champs d'application. D'abord, ce qui relève de l'activité commerciale, puis de l'activité non commerciale, les annonces dans les gares ou les aéroports, puis les réunions publiques, les colloques qui se tiennent la plupart du temps, il faut le dire en anglais, pour les colloques scientifiques en tout cas, c'est bien le cas souvent, puis ce qui relève du droit du travail et enfin de l'enseignement. Nous verrons bien sûr des cas pratiques quand on va parler, Maître Amboise, de l'application de cette loi. Quelle est la proportion d'ailleurs des litiges dans tel ou tel champ d'activité? C'est vous qui nous le direz. Mais d'abord, j'aimerais que l'on s'attarde particulièrement sur les incidences du droit communautaire, puisqu'il y a la loi française, mais bon, on sait bien aujourd'hui que la plupart des lois françaises sont des applications de directives européennes, sont des transcriptions de directives européennes. Y a-t-il d'abord contradiction ou bien renforcement?
En fait, ça dépend des cas. Donc, il existe des domaines où le droit communautaire conforte donc la législation linguistique nationale. Donc, par exemple, je prends la directive du Conseil du 13 novembre 1989 concernant l'étiquetage des produits du tabac. Donc, cette directive prévoit qu'un certain nombre de mentions doivent figurer dans les langues nationales.
Alors, vous êtes venu avec un paquet de cigarettes.
Alors, je suis venu avec un paquet de cigarettes.
Cas pratique.
Donc dont je tairai la marque.
La marque. Une marque anglo-saxonne, je ne dirai pas laquelle.
Marque anglo-saxonne. Donc, et on voit que, conformément à la directive qui renforce la loi du 4 août 1994, donc les mentions obligatoires nuisent gravement à la santé sont en français. Également, les mentions alternatives comme femme enceinte, fumée, nuit à la santé de votre enfant sont en français. Et en plus, sont bien visibles puisque la directive prévoit donc une surface que doivent occuper ces mentions.
Ainsi, mais alors qu'on comprenne bien, Maître Amboise, là, c'est l'Europe qui a dit ces mentions doivent être dans la langue du pays.
C'est donc effectivement l'Europe, pour des questions de santé publique, donc qui a estimé que ces mentions devaient être compréhensibles par le consommateur. Donc, je crois qu'on peut se réjouir de l'appui de cette directive pour ces mentions.
C'est vrai qu'on aurait fumé, fait tousser en anglais. Bon, on comprendrait peut-être moins bien.
C'est vrai. Et puis, ce qui me paraît aussi important, donc, c'est la surface occupée, puisque c'est vrai que la loi en tant que telle ne prévoit pas de surface que doivent occuper les mentions en langue française. Enfin, et puis, la directive prévoit que les mentions en langue nationale doivent occuper une certaine surface pour justement être suffisamment lisibles. Donc, on voit que pour certaines mentions, j'insiste sur le mot certaines, donc le droit communautaire donc conforte l'application de la législation nationale, et également le droit communautaire la conforte pour tout ce qui concerne la protection du consommateur, c'est-à-dire tout ce qui concerne les modes d'emploi, les mentions de restriction d'âge par exemple pour les jouets, les conditions d'utilisation, les précautions d'usage, les avertissements, c'est-à-dire tout ce qui concerne la protection des consommateurs est conforté par le droit communautaire.
En réalité,
soit par les directives, ou soit même en l'absence de texte communautaire, donc le droit communautaire admet tout à fait que pour la protection des consommateurs, les États puissent utiliser leur langue nationale.
Maître Amboise, en réalité, dès qu'il y a un danger réel ou supposé, il faut revenir à la langue nationale, il faut être compris. Dès lors qu'il faut absolument être compris, on en revient au bon principe de la langue nationale.
Vous avez raison, monsieur, d'insister sur le terme « absolument compris ». Parce que, donc, en fait, le droit communautaire et le traité instituant la communauté européenne, qui constitue l'un des piliers de l'Union européenne, donc ce texte est le texte qui régit l'ensemble des relations commerciales dans la communauté européenne. Et ce texte, en fait, ne comprend pas de dispositions linguistiques en tant que telles. Il en comprend pour le régime linguistique des institutions communautaires. Il reconnaît la diversité linguistique des différents établissements d'enseignement. Et c'est tout. Donc, en l'absence de textes linguistiques, de dispositions linguistiques dans ce texte, en fait, il y a une conciliation, on est obligé de faire une conciliation entre cette norme qui évidemment prime le droit national et donc la loi du 4 août 1994 et la loi nationale qui prévoit des dispositions linguistiques. Alors, on est obligé de concilier, mais c'est ce que j'appelle une conciliation déséquilibrée. C'est-à-dire, et je vais en revenir d'ailleurs à ce paquet de cigarettes, la loi donc rend obligatoire l'emploi du français sans mentionner en tant que tel le consommateur. C'est général dans l'assignation, l'offre, la présentation des produits, donc l'emploi de la langue française est obligatoire, sans mentionner à quelque niveau que ce soit le consommateur. Or, avec le droit communautaire, donc, toutes les dispositions linguistiques nationales sont ramenées, donc dans le domaine économique et commercial, à la protection du consommateur. Et donc, pour reprendre justement cette directive, donc lorsqu'on examine ce paquet de cigarettes, on s'aperçoit que un grand nombre d'indications sont en langue étrangère. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs ce paquet de cigarettes, on voit que c'est l'anglais qui prime.
Donc, ah oui, là, c'est certain. Hein.
Et pourquoi ? C'est que dans les autres domaines que les mentions obligatoires, donc les fabricants peuvent utiliser la langue de leur choix, peuvent soit utiliser, ou d'ailleurs ils peuvent très bien ne pas en utiliser du tout, c'est laissé à leur libre appréciation, et beaucoup de fabricants en fait apposent des termes de langue anglaise. Et je prends par exemple la mention
qui relève de l'image de marque.
Alors, qui relève de l'image de marque, mais qui peuvent aussi avoir tout de même, et c'est là où je crois qu'une réflexion s'impose, une incidence sur l'information du consommateur. Parce que sur ce paquet de cigarettes, je vois Super Lights. Or, Super Lights, ça veut dire super léger pour des cigarettes, donc super légères. J'estime qu'il s'agit d'une information pour le consommateur. Et bien, dans la mesure où ça dépasse les mentions obligatoires prévues par la directive, et bien ces mentions peuvent rester telles quelles.
Donc, oui, mais là, vous pourriez très bien invoquer le fait, pour être précis hein, sur ce cas, que Super Lights est une information qui, justement, a trait à une conséquence sur la santé du consommateur, puisque que vous fumiez des légères ou des lourdes, si je puis m'exprimer ainsi, ça n'a pas la même incidence.
Bien sûr.
Donc vous pourriez dire, il faut mettre sur ce paquet de cigarettes super légère.
Bien sûr.
Mais ça ne passe pas.
Mais ça ne passe pas parce que la directive ne prévoit pas que ces mentions donc doivent être rédigées dans les langues nationales. Et donc le fabricant n'est pas tenu de traduire ou d'apposer en français ou dans les langues nationales donc ces mentions.
D'accord.
Donc et à côté sur le côté, on voit classe cigarette, donc plein de mentions aussi.
Oui, c'est ça. Alors, attendez, on va détailler un petit peu, oui, effectivement. Sûr.
Donc, il dépasse donc ce qui est prévu par la directive, et donc les fabricants peuvent tout à fait.
Les imposer. Ingrédients sont en français. Hein.
Alors, les ingrédients sont en français parce que la directive le prévoit. Mm-hmm. C'est-à-dire que la législation nationale ne peut pas ajouter à la directive. La directive l'emporte sur la législation de même objet. Donc, alors, ce paquet de cigarettes est illustratif, en fait, d'un ensemble d'étiquetages que l'on peut voir. Ces étiquetages sont contraires à la loi, puisque la présentation est notamment en langue étrangère, mais parce qu'il ne s'agit pas de la protection du consommateur stricto sensu, les fabricants peuvent utiliser ces mentions.
Alors, j'essaie de me résumer, parce que vous venez de nous dire, maître Jean-Claude Amboise, que le droit communautaire renforçait les dispositions nationales et de fait, il le renforce puisqu'il impose la mention « nuit gravement à la santé » en français pour bien être compris. Il faut absolument être compris. Mais d'un côté, il y a une restriction, c'est qu'il réduit ce champ, cette obligation, à la question de la protection des consommateurs.
C'est la et par conséquent, consommateurs.
Tout ce qui ne relève pas de la protection des consommateurs, eh bien, ça peut être dans la langue étrangère.
Bien sûr. Et je vais même aller plus loin, parce qu'on est ici dans le moyen linguistique, donc l'emploi des langues. Mais pour le droit communautaire, en fait, dans la mesure où c'est même plus que l'information du consommateur, c'est même plus restrictif, en fait, c'est la protection, c'est vraiment la protection du consommateur. Pour, par exemple, les modes d'emploi, tous ces domaines relèvent, en fait, du consentement du consommateur, c'est-à-dire sa possibilité de choisir ou d'utiliser un produit en toute connaissance de cause. À la limite, un consommateur, s'il n'avait pas de mode d'emploi en français, peut-être qu'il n'achèterait pas le produit. Donc, ça va très loin.
Ça va très loin.
Donc, la protection du consommateur en l'absence de dispositions linguistiques dans le domaine économique et commercial dans le traité, et cette notion de protection du consommateur, en fait, pour le droit communautaire, dépasse le moyen linguistique. C'est-à-dire, c'est la protection des consommateurs, quel que soit le moyen utilisé. C'est pour ça que ça peut être des pictos. Des photos aussi, c'est-à-dire tout moyen qui peut assurer l'information du consommateur.
La directive est neutre sur la langue, en fait.
La directive, donc, pour les mentions obligatoires, elle prévoit donc l'emploi des langues, mais pour le reste, le fabricant est totalement libre. Et par exemple, pour les consignes de lavage, qui me paraît être un excellent exemple, souvent les consignes de lavage sont rédigées en anglais avec à côté des pictogrammes. Au regard de la loi, donc c'est en contradiction,
donc
c'est
de la
une
loi
infraction
Toubon.
En regard de la loi Toubon, puisque les modes d'emploi, on l'a vu, les consignes doivent être en français, mais au regard du droit communautaire, c'est conforme, puisqu'il existe des pictogrammes qui sont censés assurer l'information du consommateur, alors même que ces pictogrammes sont précédés souvent de mentions en langue anglaise, évidemment non traduites.
En fait, c'est une façon un peu quand même de torpiller la loi, hein.
C'est l'incident du droit communautaire et effectivement, je crois que ceux qui ont rédigé au départ le traité de Rome n'ont pas pensé aux conséquences linguistiques. En plus, c'était un moment où, je dois avouer, le français était une langue majeure au sein de la communauté européenne de l'époque, puisque le traité de Rome a été élaboré par six États, donc la France, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Et puis, donc, ces États étaient majoritairement francophones, avec la France, la Belgique, bon, même si la communauté flamande est très importante,
et
le Luxembourg, les Italiens à l'époque souvent pratiquaient le français, donc
la
question ne se posait pas, tout se passait en français.
Bah oui.
Et puis avec l'élargissement, donc de plus en plus l'anglais a gagné du terrain et s'est de plus en plus imposé. Et maintenant, évidemment, on voit les effets de l'absence de dispositions linguistiques dans le domaine économique et commercial dans ce traité, donc qui a tendance à limiter la portée des législations linguistiques existantes dans le domaine économique et commercial.
Bah écoutez, c'est parfaitement clair. Alors, on a pris l'exemple du paquet de cigarettes ou l'exemple du lavage. Est-ce qu'il y a d'autres domaines comme ça où les choses se reproduisent indéfiniment?
Oui, alors, par exemple, dans le domaine des jouets, par exemple, souvent pour les mentions de restriction d'âge, donc ce n'est plus indiqué en français, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, mais c'est un pictogramme, un rond avec une tête d'enfant et barré. À côté, c'est souvent en anglais, mais au regard du droit communautaire, donc le consommateur est censé comprendre que un rond avec une tête d'enfant barrée avec en bas 3, donc ça signifie que le jouet ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans.
Ces incidences du droit communautaire, vous diriez qu'elles vont encore plus dans le sens que vous décrivez aujourd'hui, que la France n'a guère d'influence pour faire évoluer à sa faveur cette législation. Quel est notre moyen de pression sur ce droit communautaire?
Alors, il faudrait inclure, donc, et je le dis souvent, je l'écris également souvent, des dispositions linguistiques, donc qui justement visent à garantir la pleine application des législations linguistiques existantes, également pour les États intéressés par l'adoption d'une législation linguistique, également de leur permettre d'adopter des dispositions qui dépassent la protection du consommateur. Parce que au regard du traité communautaire, la langue est considérée comme un outil. C'est un outil de communication. C'est-à-dire tout ce qui est valeur culturelle d'une langue, identité linguistique, identité culturelle, est absent du traité. Donc il faudrait voir reconnaître dans ce traité l'emploi d'une langue, bon certes pour des questions de consommation, pour des questions matérielles, mais aussi parce que à mon avis une langue est beaucoup plus qu'un outil de communication, mais c'est aussi, et d'ailleurs la loi le dit, donc ça fait partie de la personnalité d'un peuple, d'un pays.
Et en l'absence, là, l'Europe est un peu absente hein, sur ce coup-là.
L'Europe est absente, et donc la difficulté, c'est qu'il faudrait que tous les États donc soient d'accord pour inclure dans le traité donc des dispositions linguistiques suffisamment précises.
Oui, mais alors, Maître Amboise, ça veut dire que pour n'importe quel jouet, machine à laver, paquet de cigarettes fabriqué en Chine ou ailleurs, il faudrait avoir une mention dans la langue nationale. Ça exigerait de la part des fabricants de biens manufacturés un surcoût.
Alors effectivement, donc
en anglais ou avec des pictogrammes, ça va beaucoup plus vite.
Oui, donc ce serait un surcoût, mais je pense que les fabricants aussi ont tout intérêt à offrir des produits dans la langue nationale des pays où les produits sont distribués pour justement accroître leurs ventes. Et bon, par exemple, pour les produits de consommation très courante comme les machines à laver ou les réfrigérateurs, bon, soit ce sont des pictogrammes, ou soit les mentions sont inscrites en français. Et même, je vois dans le domaine des magnétoscopes, par exemple, souvent les mentions sont en français. Par contre, lorsqu'on passe au domaine de la haute fidélité, les inscriptions sur les appareils sont généralement en anglais. Alors on peut se demander s'il n'y a pas non plus une influence du contenu. C'est-à-dire que les réfrigérateurs, par exemple, sont un peu destinés à un usage très familial, très quotidien. Donc là, les fabricants estiment que la langue nationale doit être utilisée. Par contre, pour par exemple les chaînes de haute fidélité, c'est souvent pour écouter de la musique. Et lorsqu'on connaît le poids de la musique anglo-saxonne, j'ai aussi le sentiment que ça influe sur les fabricants.
Bien sûr.
Qui peut-être ne ressentent pas le besoin donc d'inscrire ces mentions en langue française.
On marque une deuxième pause.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
Éclairage consacré donc à l'application de la loi du 4 août 1994 relatif à la langue française, la fameuse loi Toubon. Éclairage avec maître Jean-Claude Amboise, qui est avocat des associations agréées, Avenir de la langue française, Défense de la langue française, Association francophone d'amitié de liaison, c'est l'AFAL, qui peuvent donc se porter partie civile. Un mot quand même là-dessus, justement, rapidement.
Alors, se porter partie civile, donc déjà, ça signifie que les associations peuvent solliciter des tribunaux des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elles subissent du fait de la non-application de la loi. Et cet agrément concerne certains articles de la loi, c'est-à-dire tous les articles ne sont pas concernés. Donc ça concerne donc les relations commerciales, donc les annonces sur la voie publique, les
réunions
colloques,
publiques.
Les réunions publiques.
Mais pas le droit du travail.
Les publications, mais par exemple, pas le droit du travail ni l'enseignement.
C'est ça. Donc ce sont tous les champs d'activité que vous nous avez expliqué au début de cette émission, les champs d'application de la loi. Je rappelle, Maître Amboise, que vous êtes l'auteur d'une thèse sur le sujet, hein, l'utilisation de la langue française en France face aux langues étrangères, les garanties juridiques, publié par l'Atelier national de reproduction des thèses. On peut se le procurer, je donnerai l'adresse en fin d'émission. Vous êtes donc, on peut le dire quand même, l'un des experts reconnus en la matière. Y en a-t-il d'autres d'ailleurs? Est-ce que la France est très, très armée là-dessus?
Alors, il y a un confrère qui a intervenu, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le domaine du droit du travail dans le cadre de l'affaire General Medical System, GEMS, et qui pour la première fois applique la loi dans le domaine du droit du travail, en dehors donc de cette espèce. Donc,
vous êtes deux, quoi. Vous êtes deux en France.
On est deux, oui.
Alors, ce qui est fou, c'est de voir que, on va en parler justement avec la publicité, c'est que c'est un environnement quotidien qui nous assaille en permanence et que, somme toute, bon, il y a 130 associations de défense de la langue française, 3 qui sont agréées, bon, qui font ce qu'elles peuvent, et vous-même, c'est somme toute très peu. Et le soutien des pouvoirs publics, il existe, il est réel?
Alors, le soutien des pouvoirs publics, bien sûr,
il y a une loi quand même.
Bien sûr, existe. Et donc, en fait, c'est la délégation générale à la langue française et aux langues de France, donc qui, pour les pouvoirs publics, est chargée de veiller à l'application de la loi.
Au ministère de la Culture.
Au ministère de la Culture et de la Communication. Et la DGLF n'a pas de pouvoir pour elle-même intenter des actions en justice. Mais elle joue un rôle de coordination très important au regard des différents ministères concernés par l'application de cette loi, également des différentes circulaires d'application. Et également, et je crois qu'il faut aussi insister là-dessus, elle joue un rôle d'information et de sensibilisation, au même titre d'ailleurs que les associations, pour informer les citoyens et les consommateurs sur leurs droits linguistiques, également prévenir les infractions. Mmh. En ce sens, et comme les associations, elle joue un rôle de conseil aussi pour les professionnels, par exemple, qui veulent lancer un nouveau produit, et donc ces professionnels peuvent tout à fait solliciter l'avis de la délégation générale en française aux langues de France. Et j'ajouterais bien évidemment, pour toutes les relations commerciales, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui constitue une direction du ministère de l'économie, des finances et du budget.
Qui est un peu votre bras armé, là.
Alors, qui donc joue un rôle très important, donc j'aurai l'occasion d'y revenir dans le cadre de l'application, et qui également est à même de répondre à toutes les questions des professionnels ou des citoyens, des consommateurs sur l'application de la loi. Donc, en France, il existe tout de même des organismes, qu'elles émanent de la société civile ou des pouvoirs publics, qui peuvent aider donc le professionnel, mmh, ou qui peuvent renseigner le citoyen sur les dispositions linguistiques. Donc ça me paraît important à souligner. C'est-à-dire que si les personnes ont un doute, ils peuvent s'adresser à ces organismes.
Voilà, bon, pour peu qu'elles en prennent l'initiative, voilà. Maître Amboise, ne nous le cachons pas, cette loi, c'est un peu quand même un pétard mouillé parce qu'elle avait été faite contre la publicité.
Alors, un des grands enjeux...
Or, précisément, la publicité est exclue du champ de la loi.
Alors, je serais un peu plus nuancé. Donc, cette loi, effectivement, donc prévoit des dispositions en matière de publicité, publicité écrite, publicité également parlée, notamment sur les radios ou sur les chaînes de télévision. Alors, ce qui se passe en matière de publicité, et on revient au droit communautaire un moment, c'est que la publicité, mention publicitaire, ça a pour but d'essayer d'attirer le consommateur, mais en tant que tel, ne constitue pas une information pour le consommateur sur les caractéristiques du produit, sur sa composition et autres.
C'était donc les années 50, ça.
Donc, au regard du droit communautaire, les mentions publicitaires ne sont pas considérées comme des mentions devant être obligatoirement dans les langues nationales. Et il y a un point qui soulève souvent des plaintes de la part des consommateurs ou des citoyens, ce sont les slogans publicitaires. Donc les slogans publicitaires donc sont souvent...
Allez, vous avez une batterie là, j'imagine. Là, hein.
Donc en langue étrangère, oui. Et quelquefois, d'ailleurs, ça peut être des jeux de mots. Et je prends par exemple le Conseil Général de l'Aisne. Donc le Conseil Général de l'Aisne, qui est tout de même collectivité territoriale, Conseil Général, et qui a cru bon de diffuser des publicités avec des slogans en anglais, avec des jeux de mots comme l'aine, it's open, ou campagne pour campagne.
Ah oui, tous les jeux de
donc,
mots, d'accord.
Tous les jeux de mots, donc en anglais. On peut bien sûr déplorer qu'une collectivité.
Mais attendez,
territoriale...
là c'est de la publicité ou pas?
Alors.
Mais ce n'est pas commercial.
C'est commercial.
C'est de la communication.
C'est de la communication, c'est commercial. Donc, l'Aisne, it's open, c'est-à-dire que tout le monde peut aller dans l'Aisne. Donc, moi, ça me paraît être, ce sont des mentions publicitaires et qui sont exclusivement en anglais. Et Laine a dépensé, je dois avouer, beaucoup d'argent pour cette campagne de publicité, parce que des affiches de ce type ont été affichées dans le métro. Et alors, je crois que c'est grave, parce que donc on peut s'étonner qu'un conseil général donc adopte cette politique. En plus, si effectivement une publicité en anglais doit être effectuée, je crois qu'il vaut mieux l'adresser directement au Royaume-Uni, par exemple, plutôt qu'en France. Et malheureusement, sur le plan du droit communautaire, donc ces mentions publicitaires, ces slogans publicitaires, donc qui accompagnent souvent les marques, d'ailleurs, hein, je me souviens, par exemple, d'une marque Nike, Just Do It,
donc, bien sûr.
Donc qui était couramment donc utilisée.
Qu'on
donc,
pourrait traduire par... Fais-le, tu peux le faire.
Oui, mais alors
c'est pas facile à traduire.
Oui, mais alors souvent, en fait, la traduction littérale, en tout cas, c'est mon avis, n'a aucun intérêt en tant que tel. Ce qui compte, c'est l'esprit,
bien sûr, en fait.
Et une simple précision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, je dois avouer, fait vraiment tout ce qu'il peut pour essayer de faire appliquer la loi, y compris pour les slogans. Et on le voit très bien dans les émissions télévisées où les slogans en langue étrangère sont quasiment systématiquement traduits en français. Alors, du temps de la loi de 1975, le CSA exigeait la règle du parallélisme des formes, le respect de cette règle, c'est-à-dire que la traduction écrite devait être de même nature et de format équivalent à la traduction donc en anglais le plus souvent, et la voix également en anglais devait être doublée donc en français. Et et maintenant, en fait, la loi et les dispositions, le CSA interprète de manière beaucoup plus souple les dispositions, et en fait l'essentiel, c'est que la mention apparaisse en français. Mais alors, pas tout à fait, français, c'est quand même plus visible, mais en fait on s'aperçoit que le français est minoré. Donc, et souvent, bon, certes, le français reste lisible grâce à l'intervention du CSA, mais l'équivalence, par exemple, des traductions n'est plus en vigueur.
Mais sur quoi s'appuie le CSA ? Sur la loi Toubon ?
Alors, sur la loi Toubon. Et sur la loi Toubon, et notamment, le CSA fait appel au bureau de vérification de la publicité, donc pour ces messages publicitaires. Donc, ce que je viens de dire, c'est pour les chaînes de télévision.
Voilà, mais si je me suis bien quand même sur ce dossier-là, ça veut dire que entre ce qui existait avant et ce qui se fait maintenant, c'est moins bon pour la langue française.
C'est effectivement moins bon. Et effectivement, d'ailleurs, le CSA...
Donc la loi n'a pas fait progresser les choses sur ce point.
Là, on peut noter, je dirais même, un recul. Et d'ailleurs, la circulaire du 19 mars 1996 donc insiste sur l'absence d'équivalence de traduction. Que l'essentiel, c'est que le français, en fait, soit présent. Donc, à mon avis, le CSA donc, s'est appuyé sur cette disposition de la circulaire pour... certes exiger une traduction, mais qui soit moins importante et de taille surtout moins importante.
Maître Amboise, est-ce qu'au regard de la loi Toubon, le CSA pourrait exiger la mise en équilibre parfaite entre la langue étrangère et la langue française ?
Alors, au regard de la loi Toubon, elle pourrait l'exiger. En revanche, au regard du droit communautaire, dans la mesure où il s'agit de slogans, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas directement la protection du consommateur, là j'émets les plus grandes réserves sur la compatibilité donc de la pratique du CSA avec le droit communautaire. Et j'ajoute que pour les radios, en revanche, à ma connaissance, le CSA ne contrôle pas les slogans publicitaires que même les radios donc émettent elles-mêmes pour leur compte. Par exemple, énergie, pour ne pas la citer, toutes les heures, on entend donc à chaque changement d'heure, énergie, radio number one.
Oui. Tout est en anglais quasiment sur ce type de radio.
Et je n'ai pas connaissance d'intervention du CSA. Également pour Radio Nostalgie, qui souvent accompagne ces messages de termes anglais, pour des termes qui vantent la station. Souvent, ces termes sont uniquement en anglais et je n'ai pas non plus connaissance donc d'intervention du CSA. Donc, ce qui me paraît en tout cas montrer que l'intervention du CSA est tout de même très fragile dans le domaine de ces slogans publicitaires et des mentions publicitaires.
Vous diriez qu'il y a un trou noir pour la publicité ?
Alors, la publicité, donc là aussi je reviendrai donc à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le droit communautaire, notamment le traité, doit prévoir que les dispositions linguistiques doivent s'appliquer au-delà de la protection du consommateur. qu'elles doivent s'appliquer au-delà de la santé, au regard des dommages causés par le non-emploi d'une langue. Bon, il est évident que, il est vrai que si un consommateur ne comprend pas un slogan en langue étrangère, c'est vrai que sa vie, sa sécurité n'est pas en danger. Mais je crois qu'il faudrait absolument que les aspects culturels soient inscrits dans les textes communautaires.
Mais c'était bien la volonté au départ de Jacques Toubon.
Oui. Mais
que la publicité soit concernée.
Bien
et
sûr.
Au dernier moment, je ne sais plus comment les choses se sont vraiment passées, mais il y a eu une pression de la part des publicitaires pour que justement la loi Toubon ne porte pas atteinte, si je puis dire, ne s'immisce pas dans le domaine strictement commercial du slogan.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Et puis, je pense aussi.
Et puis, de
que
toutes les inscriptions sur les vitrines aussi.
Oui, toutes les inscriptions sur les vitrines. Et je pense que les fabricants connaissent le droit communautaire. Et je pense qu'elles savent, que ces fabricants savent très bien que, le cas échéant, elles peuvent invoquer le droit communautaire et l'absence de dispositions linguistiques, notamment en matière de publicité, pour limiter, voire même pour annuler ces dispositions en matière de publicité.
Parce que c'est le domaine où les atteintes à la langue française sont les plus criantes.
Elles sont donc les plus criantes.
Alors
sachant que au surplus, les slogans peuvent être protégés par un autre texte international, qui est la Convention de Berne sur les œuvres de l'esprit. C'est-à-dire le slogan, s'il est suffisamment original, peut être protégé par le droit d'auteur. C'est un peu comme une œuvre.
Et donc le fameux Just Do It de Nike, par exemple,
donc
peut être protégé comme étant vraiment la marque de fabrique de Nike, qui d'ailleurs se garde aujourd'hui de mettre même le nom de la marque,
oui,
puisque
oui.
Son insigne
est
suffisamment connu.
Oui, oui. Donc, sachant que, en plus, dans le domaine des marques, il y a une directive communautaire. Donc, c'est la directive du 21 décembre 1988 qui admet comme marque les assemblages de mots, sans aucune autre précision. Alors, vous comprenez bien qu'avec le terme assemblage de mots, ça permet l'emploi de tous les mots étrangers.
Alors, ça veut dire quoi concrètement, là?
Assemblage de mots, ça veut dire que n'importe quel fabricant peut très bien adopter un slogan en langue étrangère. L'essentiel, c'est que les termes ne soient pas d'un usage habituel dans le langage courant. Bon, par exemple, un fabricant ne pourrait pas utiliser rocking chair. Le terme rocking chair dans un slogan, parce que le terme rocking chair est considéré comme d'usage courant en français. Mais au-delà, donc, le fabricant a toute latitude, en s'appuyant sur cette directive communautaire, donc, de retenir des slogans, notamment en langue étrangère, sachant qu'en plus, ils sont suffisamment originaux, ils peuvent être protégés par la Convention de Berne sur les œuvres de l'esprit. Et si vous permettez, je vais rebondir sur un autre thème qui suscite beaucoup de plaintes de la part des consommateurs et des citoyens, c'est le titre des films. Puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus, les films, donc qu'ils soient cinématographiques ou télévisuels, comportent des titres en anglais. Alors, lorsqu'on lit la loi donc du 4 août 1994, on pourrait estimer que dans la désignation, la présentation, donc ces titres sont concernés par cette loi. Mais en fait, le titre d'un film donc constitue une œuvre de l'esprit. Et donc, ces titres sont protégés par cette Convention de Berne sur les œuvres de l'esprit, donc qui protègent le droit d'auteur, et donc les distributeurs, les producteurs peuvent très bien utiliser, et on le remarque, donc des termes en langue étrangère pour leur désignation de films. Je pense par exemple à Apocalypse Now, qui est un film qui a eu beaucoup de succès, alors qu'au Québec, par exemple,
mais même un certain Jeanne d'Arc, d'ailleurs,
un certain Jeanne d'Arc, oui, Joanne d'Arc, donc et donc on s'aperçoit que ce domaine qui est tout de même très visible, hein, puisque les salles de cinéma, les grandes affiches, on voit les titres en anglais, et donc c'est la même chose. Ces titres ne sont pas protégés par la législation sur la marque, mais par la Convention de Berne sur les œuvres de l'esprit, et le titre de l'œuvre est assimilable donc à l'œuvre elle-même, donc pour la protection sur les œuvres de l'esprit et par le droit d'auteur. Et donc là aussi, malheureusement, on peut évidemment toujours convaincre, essayer de convaincre.
Bien sûr.
Donc il n'y a pas d'arme juridique pour ça.
Est-ce qu'il y a un moyen, alors puisqu'on est sur ce sujet? Outre le titre du film qui, bon, allez, on veut bien le comprendre, constitue éventuellement une œuvre de l'esprit. Mais après, vous avez toute la bande-annonce où défile l'ensemble de l'équipe qui a réalisé le film. Et là, bien souvent, les films anglo-saxons, en France, paraissent avec, vous savez, written by, tout est écrit en anglais avec les noms qui succèdent. Et ce n'est pas traduit, ça.
Oui.
Alors vous allez me dire, on chipote, mais...
Non, pas du tout.
Et là, vous pouvez le faire traduire, ça?
Et d'ailleurs, je dois vous avouer que j'ai eu des entretiens avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, justement, pour les génériques, puisque je crois qu'il s'agit
les génériques.
Des génériques.
Exactement.
Et donc, le CSA m'a soutenu que les génériques étaient protégés, justement, par le droit d'auteur. Et alors, pour ma part, je ne vois pas l'originalité d'un générique. Lorsqu'il s'agit d'un défilé de noms, producteurs, producteurs délégués, acteurs, non des acteurs, pour moi, il n'y a aucune originalité. Un slogan peut être original. Un titre de film, bien évidemment. En revanche, pour moi, un générique ne constitue pas une originalité pour pouvoir bénéficier de la Convention de Berne sur la protection des œuvres de l'esprit. Donc, pour moi, donc un générique doit être traduit en français conformément à la loi Toubon, mais pour le CSA et également pour les organismes chargés du cinéma, je pense au CNC, donc le Centre National du Cinéma, ils considèrent que les génériques font partie de l'œuvre, que c'est un tout.
C'est un tout.
Un tout, et donc que les génériques...
Il n'y a jamais de procédure
doit, à ma connaissance, non, il doit...
Et vous seriez prêt à en mener une?
Bien évidemment, je serai prêt et j'en reviendrai pour
l'application de la loi.
Puisque là aussi, il faut bien avoir en tête la procédure à suivre pour l'application de la loi.
On y vient dans quelques secondes. La langue française triturée dans tous les sens au regard de la loi Toubon, la loi du 4 août 1994, donc relative à l'emploi de la langue française. Alors vous nous avez parlé, bien sûr, Maître Amboise, de tout ce qui relève du champ d'activité commerciale, non commerciale, les réunions publiques, ça c'était au début, le droit du travail, l'enseignement, puis le droit communautaire, toutes les incidences, renforcements, contradictions aussi, c'est loin d'être simple tout cela, puis la publicité, on y venait justement, et le cinéma, c'était le dernier point sur lequel on s'était arrêté, et vous avez terminé sur ce point, la procédure, connaître les procédures. Est-ce qu'on peut avoir des cas pratiques comme ça de procédures que vous avez lancées, qui ont réussi? Combien en a-t-il par an, d'ailleurs?
Les procédures qui ont comme base donc les actions de la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
Bercy.
Et de la Répression des Fraudes, donc Bercy, donc concernant l'application de l'article 2. Et je dois d'ailleurs avouer tout de suite que c'est vraiment l'article qui retient l'attention des pouvoirs publics. C'est-à-dire tout ce qui concerne la protection du consommateur.
Dans le domaine commercial.
Voilà. Donc, et il faut bien évidemment voir que cette application s'effectue dans le cadre de tout ce que je viens d'indiquer sur le droit communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'application de la loi donc se fait au regard de ce que permet le droit communautaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un étiquetage comme le paquet de cigarettes quasiment entièrement en langue étrangère, mais dans la mesure où le droit communautaire donc permet ces inscriptions, évidemment la DGCCRF n'attendra pas d'action contre ce type de pratique.
Autrement donc, dit, Bercy sera quand même très minimaliste dans ce domaine.
Aura tendance...
On va appliquer ce qui vraiment doit être appliqué.
Voilà, ce qui peut être, je dirais, ce qui peut être appliqué donc au regard du droit communautaire. Et pour répondre précisément donc à votre question, la délégation générale à la langue française et aux langues de France émet chaque année un rapport sur l'application de la loi. Et donc, comme je le disais, bon, c'est vraiment l'article 2, donc cet article qui concerne l'emploi obligatoire de la langue française dans les relations commerciales, qui retient l'attention des pouvoirs publics. Et donc, si on prend les chiffres, on s'aperçoit que le nombre d'interventions se monte à 735 manquements, donc ont été relevés par la DGCCRF, et 526 ont été suivis d'un rappel à la réglementation. Donc c'est-à-dire que lorsque des infractions se présentent, il ne faut pas croire que la DGCCRF automatiquement intente une procédure. C'est loin d'être le cas. En fait, 71,5%, ça veut dire que près des trois quarts donc des infractions font simplement l'objet d'un rappel à la réglementation. Donc la DGCCRF, donc
exemple, un magasin qui
un magasin par exemple qui vend des chaussures accompagné de mentions exclusivement en langue étrangère, par exemple la composition donc du produit cuir etc. donc ou des produits cosmétiques aussi, donc précaution d'emploi, précaution d'usage du produit cosmétique. En général, la politique de la DGCCRF, pour au moins la première fois, ce sera d'adresser un rappel à la réglementation. Moi, je dois vous avouer que plus de 10 ans après l'application de la loi et au regard tout de même des organismes qui peuvent aider donc les fabricants à la respecter, bah, j'estime que le taux de rappel à la réglementation est excessif. À mon avis, plus de 10 ans après l'application de la loi, la loi doit tout de même entrer dans l'esprit des différents fabricants. Donc, 71,5% donc des infractions font l'objet d'un simple rappel à la réglementation. Donc, ça veut dire qu'un grand nombre de produits commercialisés en langue étrangère, en fait, ne font pas l'objet de procédures. Et donc, 209 donc sur ces 735 ont fait l'objet de procédures contentieuses. Donc, ça veut dire 28,4% des infractions. Donc, et ça concerne souvent...
Quel tribunal ?
Les lettres de rappel à la réglementation qui n'ont pas été
respectées. Bon, suivi des faits. Tribunal de commerce ?
Alors, les tribunaux compétents, dans la mesure où ces dispositions sont sanctionnées par des sanctions pénales, donc c'est le tribunal de police, ou plus précisément maintenant la juridiction de proximité, donc mais statuant en matière de police, qui est compétente, puisque la loi est sanctionnée par des dispositions pénales.
Ça relève du tribunal de police.
Donc ça relève des tribunaux de police. Et je dois vous avouer que c'est...
Pourquoi pas du commerce, là ? C'est une question peut-être
parce
aberrante,
mais... la loi est sanctionnée par des sanctions pénales. Donc ce sont les sanctions pénales donc qui dirigent les actions vers le tribunal de police, ou maintenant la juridiction de proximité statuant en matière de police.
D'accord.
Donc on s'aperçoit que finalement les condamnations, puisque donc il y a cette procédure, et puis après donc évidemment les tribunaux, lorsque les procédures aboutissent déjà auprès du procureur, parce que le procureur, lui, est juge de l'opportunité des poursuites. Il peut très bien être saisi d'un procès-verbal dressé par une direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Et ne pas juger bon
de poursuivre. Donc, à ce moment-là, la procédure, bien sûr, est arrêtée. Et donc, le nombre de dossiers qui vraiment viennent devant les tribunaux est assez donc
alors sur 700
réduit
et quelques
sur
à combien de condamnations aboutit-on?
Donc on aboutit à peu près à une trentaine de condamnations
par an.
Donc par an sur les 735. En fait 4%, j'ai calculé, donc 4% des infractions aboutissent à une condamnation devant les tribunaux, donc dans ce domaine de l'article 2.
Enfin, et quel type de condamnation?
Ça me paraît assez réduit. Donc alors, les condamnations, bien sûr. Donc alors déjà les pratiques qui sont donc sanctionnées, donc sont les modes d'emploi en langue étrangère, les mentions de restriction d'âge pour les jouets, les précautions d'usage, donc généralement les caractéristiques aussi des produits. Et les condamnations peuvent tout de même être assez lourdes dans la mesure où le juge peut faire jouer la règle du cumul, c'est-à-dire prononcer autant de condamnations que d'infractions. Bon, alors, bien évidemment, mes confrères de la partie adverse défendent, comme il va de soi, les fabricants et les contrevenants. Bon, bien, en général, les condamnations sont réduites. Cela étant, lorsqu'il s'agit, par exemple, de milliers de produits qui sont en infraction, ça peut constituer tout de même des condamnations assez importantes.
On peut les retirer de la vente, comme on peut retirer un livre à la suite d'un référé?
Alors, malheureusement, la loi ne le prévoit pas. Donc, comme par exemple, la loi ne prévoit pas que on puisse demander une publication judiciaire, par exemple, des condamnations. Cela étant, je pense qu'au bout de plusieurs fois qu'une même société est condamnée, surtout lorsqu'il s'agit de nombreux produits, la société peut tout de même, après, estimer qu'elle a plus intérêt à respecter la loi plutôt qu'à être condamné de manière régulière.
Ce qui est étonnant, Maître Amboise, c'est que les domaines dans lesquels s'applique cette loi tout bon de d'où 94, c'est, on l'a bien vu, la protection des consommateurs. Or, les entreprises ont tout intérêt à ce que la protection du consommateur soit assurée. Elles ne peuvent pas se permettre une entorse dans ce domaine.
Oui, et ça dépend, parce que je vois par exemple dans le domaine de l'informatique, de plus en plus les professionnels estiment que l'anglais est la langue habituelle de l'informatique et donc souvent sont réticents à traduire les modes d'emploi livrés en anglais. Donc, bon, en revanche, pour des produits vraiment de consommation courante, comme par exemple les jouets, bon, il est sûr que on peut estimer que les fabricants, là, sont plus enclins. Dans le domaine de l'informatique, c'est déjà plus difficile.
Mais qui attaquez-vous, par exemple, si on doit prendre celui de l'informatique, ce domaine-là ? Vous attaquez le fabricant, le vendeur ?
Alors, c'est là où je vais donc en venir. Donc, aux associations et à la manière dont ça se passe. En fait, les associations donc agissent bien sûr en amont par voie amiable. C'est-à-dire que lorsque un citoyen ou un consommateur donc les saisissent, elles essaient de trouver une solution par voie amiable auprès du contrevenant, donc l'inciter, l'obliger à respecter la loi. Et lorsque malheureusement aucune solution par voie amiable n'est possible, à ce moment-là, les associations donc saisissent la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Réparation des Fautes. Pourquoi ? Parce que la loi est très stricte sur la procédure à suivre, et donc justement j'en viens à la procédure, puisqu'elle prévoit que les infractions aux dispositions donc de ces textes sont constatées par des procès-verbaux. Donc ça veut dire que les associations ne peuvent pas elles-mêmes donc dresser procès-verbal. Elles sont obligées de saisir donc les directions départementales.
Remarquez,
de la
concurrence. C'est une garantie. Hein.
Alors c'est bien sûr une garantie. Cela étant, les associations sont aussi liées un peu à la bonne volonté des directions départementales, parce que si les directions départementales estiment que le dossier peut rester en l'état ou que des poursuites ne sont pas nécessaires, la procédure est automatiquement arrêté. Alors je vois par exemple le domaine des colloques, le domaine des colloques qui, je dois avouer, est un domaine où l'application de la loi est vraiment
marginale,
très légère, voire même marginale et même pourrait presque peut-on dire inexistante. La loi prévoit, puisque là ce n'est plus la DGCCRF qui est compétente pour constater les procès-verbaux, mais les officiers et les agents de police judiciaire. C'est-à-dire que il faut, pour que la loi soit appliquée, que des agents de police, des policiers ou des gendarmes entrent par exemple dans un colloque et dressent procès-verbal. Donc vous imaginez les difficultés pratiques que cela peut comporter. Je crois que sur ce
ça
point-là...
Ça s'est déjà produit ?
Une association a obtenu une condamnation d'une école d'ingénieurs, donc qui avait distribué des programmes exclusivement en anglais. Et là je dois avouer que mon confrère de l'autre côté de la barre avait omis d'exciper de l'absence de procès-verbal d'infraction pour justement échapper à l'application de la loi. Donc c'est un peu un cas fortuit, mais sinon la procédure en fait est très rigoureuse et je ne suis pas persuadé qu'elle est très adaptée dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des colloques où effectivement l'intervention des agents, des officiers de police judiciaire, des policiers, des gendarmes dans un colloque, je crois, serait vraiment très mal perçue par les participants au colloque.
Votre plus beau succès ?
Alors, mon plus beau succès, j'en ai deux, si je puis m'exprimer ainsi. La FNAC, où donc j'ai obtenu une condamnation concernant des modes d'emploi de logiciels qui étaient exclusivement rédigés en langue étrangère, et également Sony, dont j'ai obtenu la condamnation pour des disques compacts comportant des mentions exclusivement en langue étrangère, notamment les précautions d'usage. C'est-à-dire que les disques compacts étaient destinés à certains appareils, et toutes les mentions étaient en langue anglaise. Et bien évidemment, les consommateurs, en achetant le produit, ne pouvaient pas se servir des disques compacts puisqu'ils ne correspondaient pas aux appareils qu'ils avaient achetés.
La FNAC, c'est le vendeur. Sony, c'est le fabricant.
Oui.
Ils sont condamnés de la même manière ?
Ça dépend. Ils sont condamnés de la même manière.
Ils sont pareillement responsables.
Alors, ils sont pareillement responsables, mais bien sûr, en France, il existe un principe fondamental qui est celui de la personnalité des peines. Donc, à chaque fois, bien évidemment, le juge n'applique pas une sorte de règle intangible, mais adapte donc les condamnations, notamment aux efforts. Donc, que peuvent faire les fabricants pour essayer d'appliquer la loi. Il est évident que si au moment d'un procès verbal, les produits sont en infraction, mais si au moment de l'audience, mon confrère de la partie adverse arrive à prouver que les produits ont été munis d'étiquetage ou de mode d'emploi en français, il est bien évidemment que le juge en tiendra compte.
C'est logique. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, maître Jean-Claude Amboise, d'être venu ainsi nous parler de l'application de la loi Toubon du 4 août 1994. Je rappelle que vous êtes avocat de ces associations agréées. Il y en a trois, Avenir de la langue française, Défense de la langue française et l'Association francophone d'amitié et de liaison. Votre thèse, l'utilisation de la langue française en France face aux langues étrangères, les garanties juridiques, c'est publié par l'Atelier national de reproduction des thèses. On pourra se procurer justement votre thèse à l'adresse suivante, le 9 rue Angelier. C'est 59 046 Lille Cedex. Voilà, c'est l'ANRT qui reproduit donc les thèses. Un dernier mot, maître Amboise.
Donc, je crois.
Vos combats à venir.
Oui, donc je crois que c'est un long combat. C'est un combat qui doit être mené, non pas, je dirais, de manière défensive au sens militaire du terme, mais simplement pour que le français soit respecté.
Mais il y a du boulot.
Donc, en France, il y a beaucoup de travail, et je crois aussi qu'il faut maintenant de plus en plus intervenir en amont, c'est-à-dire au niveau des règles de droit international, que ce soit le droit communautaire.
Là, on l'a bien perçu.
Ou, comme on l'a vu, également la Convention de Berne sur les droits d'auteur et d'autres textes internationaux qui ont des incidences linguistiques qui peuvent être substantielles pour l'application des législations linguistiques nationales existantes.
Merci et à bientôt.